Alors, nous allons venir à un autre rendez-vous du Seigneur. Et c'est dans Marc 10, versets 46 à 53, la fin du chapitre. C'est un passage qu'on connaît bien. Un rendez-vous du Seigneur, comme on a déjà dit dans toute notre série, ce n'est pas simplement une rencontre, mais Jésus a rendez-vous avec une âme. Et ici, c'est Bartimée. Ok, vous êtes là, chapitre 10 de Marc, verset 46. Ils arrivèrent, c'est-à-dire la foule et Jésus au milieu, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà le texte que nous voulons regarder ce matin, un texte qui est parallèle à ce qu'on trouve dans Luc. Luc a certains détails en plus, et puis il y a Matthieu aussi, mais c'est Marc qui est le plus détaillé, et c'est lui qui va nous conduire aujourd'hui. Alors, une chose qu'il faut garder à l'esprit, en guise d'introduction, les écrivains bibliques étaient inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous lisons les mots qui sont mis dans la Bible, nous lisons en fait ce que l'Esprit de Dieu veut révéler, ce que Dieu veut révéler par son Esprit. Mais en même temps, les écrivains bibliques ne sont pas des dictaphones, ce n'est pas des machines. Il y a leur personnalité. Ils composent leurs textes. Par exemple, quand on lit un passage en Ésaïe, on sait assez rapidement, quand on a l'habitude, que ce n'est pas Jérémie, parce que les deux hommes étaient complètement différents. Ésaïe est un homme qui évoluait dans les milieux de la noblesse, probablement de famille royale. Jérémie, c'était quelqu'un complètement différent, et au niveau tempérament différent. Et ici, Marc, quand il écrit, sous la supervision en gros de Pierre, c'est un homme qui compose ce qu'il écrit. C'est-à-dire, il ne met pas les choses en vrac comme ça. Et par exemple, si nous allons en Marc 4 et 5, nous voyons que Jésus calme la tempête. Et vous vous rappelez, il était endormi dans le bateau, les disciples ont peur de sombrer. Il réveille le Seigneur calme la tempête d'un mot, et les disciples sont complètement interloqués, ils se posent une question, quel est donc celui-ci ? Verset 41 du chapitre 4. Et la réponse, donc ici on voit la composition de Marc, la réponse leur est donnée par la bouche des démons dans le chapitre suivant. Parce que quand il aborde, vous voyez, juste après la tempête, il aborde de l'autre côté du lac, de l'autre côté de la mer, et il y a ce possédé qui vient vers lui, et les démons, à travers la bouche du possédé, disent « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Donc, vous voyez, la question des disciples reçoit une réponse, et par ça, on voit que Marc a composé son récit. On fait ça quand on écrit, de toute façon, il y a des tas de choses qu'on pourrait mettre au milieu, mais on les écarte, non pas parce qu'elles ne sont pas vraies, mais parce qu'on veut faire ressortir certaines choses. Et Ici aussi, Marc n'écrit pas au hasard. Si on regarde le verset 32, par exemple, on voit cela. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et en fait, Marc ici montre plus que simplement le fait que Jésus va à la fête, comme il allait chaque année. Non, il monte à Jérusalem. Et bien entendu, il y a toute une signification plus profonde qui est derrière ce fait, dans le fait que Jésus monte en fait à la croix, là. Et si on continue dans le verset, regardez, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Parce que si on lit le passage parallèle en Luc, c'est Luc 9, 51, on voit que Jésus a pris la détermination d'aller à Jérusalem. Il a tourné sa face vers Jérusalem. Maintenant, il n'y a plus rien qui se tient entre lui et la croix. Alors, depuis l'éternité, il n'y a rien qui se tient entre lui et la croix. Hein, c'est son objectif, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, il monte à Jérusalem. D'accord? Et en fait, il semble que tout le poids de ce qu'il va accomplir s'abat sur lui d'une manière particulière. Parce que regardez en Marc 32, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Ils ont quelques craintes, l'apparence de Jésus-Christ a probablement changé. On connaît ça par expérience, quand quelque chose nous fait face, qui est un défi, alors bien entendu, on est préoccupé, on est occupé avant tout par cela. Et c'est exactement cela. L'angoisse de la croix se saisit particulièrement de Jésus maintenant. Et il déclare aux disciples ce qui doit arriver. L'angoisse le saisit. Et Luc prend la peine de nous dire que, alors que Jésus est bien clair par rapport à l'annonce de ce qui va arriver, les disciples n'ont rien compris. Les disciples ne comprirent rien du tout. Ça, c'est en Luc 18, 34, qui est le passage parallèle. Il leur explique, mais ils ne comprennent pas. Le Fils de Dieu va s'humilier d'une manière particulière. On pense à Philippiens chapitre 2, jusqu'à la mort, et la mort de la croix, n'est-ce pas? Il va s'humilier. Ça, c'est l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il a envoyé son Fils pour s'humilier. Quelle est la réponse de l'homme face à cela? Marc, verset 35, ici dans notre chapitre 10, « Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous demanderons. » Et c'est de s'asseoir à droite et à gauche de Jésus, dans le royaume. Jésus va s'humilier, le maître va s'humilier. Tout à l'heure, l'aveugle va l'appeler Rabouni. Alors, il y avait plusieurs façons d'adresser les chefs des Juifs. Et Rabouni, c'était la plus haute. Lui, il va s'humilier. Et voilà que les deux, qui ne savent même pas de quel esprit sont occupés, ils demandent à être les premiers dans le royaume de Dieu, à côté de Jésus. Et les autres ne sont pas meilleurs, parce qu'en fait, ils sont en colère contre Jean et Jacques, parce que, bien sûr, c'est eux qui veulent être à la place, n'est-ce pas? Quelle est la réponse de l'homme? C'est l'orgueil. Et le verset important dans ce passage, c'est le verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Voilà exactement la toile de fond de notre passage. Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et notre passage, la guérison de cet aveugle, de ce mendiant, de Bartimée, est en fait une illustration de la chose. Donc vous voyez, Marc compose ici. Il y a des tas de choses qu'il aurait pu dire. Par exemple, si on va en Matthieu, on voit qu'il y a deux aveugles. Marc n'est pas intéressé par les deux aveugles parce qu'il est intéressé dans Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, en regardant ce texte, on ne veut pas spiritualiser à outrance, c'est-à-dire donner une signification métaphysique à tous les détails. Non. Mais en même temps, il nous faut relever les raisons qui poussent Marc à écrire ce qu'il écrit et pourquoi il l'écrit de cette manière. Ce que je veux dire par ça, c'est même dans la manière dont Marc écrit, et cela vaut pour le reste de l'écriture, même cette manière est importante et il nous faut la relever régulièrement. Alors, je pense que la scène dans ce passage nous est familière. Jésus a quitté la Galilée, il y avait eu ce grand ministère galiléen, comme disent les commentateurs, et puis maintenant il va à la fête, à Jérusalem pour la fête, et en fait il va à Golgotha. Mais lui, il va à la fête comme tout juif mâle devait le faire selon la loi. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Jésus devait accomplir la loi, c'est-à-dire que 3 fois l'an, il allait à la fête. Et là, il est en route. Donc, il part de la Galilée et comme la plupart des Juifs, il ne traverse pas la Samarie. En plus, il y avait des montagnes, des vallons, des collines, c'était assez fatigant. Mais il passe de l'autre côté du Jourdain et il descend le long d'une région qui s'appelle la Pérée. Et là, il y a ce qu'on appelle le ministère péréen, c'est-à-dire que Jésus va accomplir certaines choses et enseigner certaines choses là. Mais maintenant, il retraverse le Jourdain et il passe par Jéricho. Et à partir de Jéricho, il va commencer l'ascension qui va jusqu'à Jérusalem. Jérusalem est dans les montagnes. Et c'est là qu'il va accomplir le salut de son peuple. Voilà en gros la toile de fond. D'une part, voici l'itinéraire de Jésus, mais aussi la signification de ce qui se fait ici. Jésus va accomplir le salut de son peuple, mais il le fait non pas d'une manière théologique, si je peux dire, simplement, mais il le fait pour chercher et sauver ce qui était perdu. N'oublions jamais le fait que Dieu s'implique. Donc, il n'est pas le seul à voyager. Comme chaque année, il y a une foule. Ici, c'est une assez grande foule, hein, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de monde. Une foule fait le déplacement et beaucoup se pressent autour de ce jeune rabbin qui est devenu tellement populaire parce qu'il est devenu très controversé. Il fait parler de lui. Et Jésus les enseigne. Mais n'oublions pas, tout au long de cela, que l'étau de la colère de Dieu contre le péché se referme d'une manière de plus en plus ressentie sur son cœur. Hein? On pourrait dire le nuage sombre de Golgotha s'approche et pèse de plus en plus sur Jésus-Christ. Et c'est ça qui donne une couleur plus vive encore à notre passage. Quand on voit un paysage au soleil, c'est joli. Mais souvent, quand il y a le fond des nuages sombres et le soleil, ça fait ressortir encore davantage, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe ici. Ce qui s'exprimera puissamment à Gethsémané, ce qui va vraiment le presser et suprêmement à Golgotha, est déjà à l'œuvre sur l'âme du Fils de Dieu. Et c'est ce que nous voulons garder à l'esprit. Alors, on va suivre notre plan plus ou moins régulier. On va regarder qui est celui avec qui Jésus a rendez-vous. On va voir certaines motivations, ou plutôt certaines dynamiques qui sont impliquées. Et puis, on va regarder le fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors, premier point, le fils de Timée. Qui est celui avec qui Jésus a rendez-vous? Et une fois encore, comme c'est souvent le cas, on ne sait pas beaucoup sur lui. Pas grand-chose, il n'y a pas tout un CV. Mais ce que nous savons est très instructif en regard au salut. Alors, la première chose qu'on sait, c'est qu'il est de Jéricho. Jéricho, le premier sous-point. Et c'est aux abords de la ville que la rencontre se produit. Bartimée y habite et il semble avoir été bien connu. En fait, le français ne nous aide pas beaucoup parce qu'il est dit que le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. En fait, la réalité, c'est qu'il est dit mendiant ou l'aveugle, avec l'article, qui mendie. Donc il était connu. C'était un peu un trait de la ville. Alors, peu d'entre vous êtes vraiment des vrais chalonnais. Mais dans le temps, il y avait un aveugle qui était tout le temps vers les nouvelles galeries. Et tout le monde le connaissait à Chalon, sans jamais le connaître. Par exemple, quand on parlait de Lulu, tout le monde savait qu'on parlait de l'aveugle. Vous voyez ? Ici, c'est pareil. Bartimée, c'est l'aveugle, n'est-ce pas ? Donc, il a une certaine notoriété. Or, Jéricho, c'est une ville et un lieu qui apparaît souvent dans l'Écriture. C'est une ville agréable, proche du Jourdain, elle est dans la plaine et elle était connue comme la cité des palmes. Il y avait beaucoup de palmiers, donc c'était un endroit qui était plaisant. Et puis, c'était une ville prospère. Alors, il y avait des richesses naturelles, il y avait ce qu'on pourrait dire du pétrole aujourd'hui. Mais aussi, la ville se trouvait dans un carrefour de plusieurs voies commerciales. Donc, il y avait énormément de caravanes et de marchands qui passaient. Il y avait une grande prospérité et beaucoup de monde passait par Jéricho, non seulement pour aller à Jérusalem, mais pour passer, par exemple, de l'Égypte en Syrie et ainsi de suite. Voilà où est notre aveugle. Jéricho avait été aussi maudite, rasée et placée sous interdit. Vous vous rappelez, lors de la conquête de Canaan, comment les Israélites avaient fait sept fois, pendant sept jours, le tour de la ville, ensuite le dernier jour sept fois, et la ville avait été complètement dévastée et placée sous interdit. C'est-à-dire que elle ne devait pas être reconstruite et elle était restée en ruine pendant plusieurs siècles. Mais finalement, elle avait été rebâtie en défiance, en rébellion contre l'ordre de l'Éternel et à grand prix. Si vous allez dans 1 Roi 16, vous apercevez que celui qui l'a rebâtie a commencé à poser la première pierre au prix de son fils aîné et il a posé les portes, c'est-à-dire qu'il a fini la construction au prix de son plus jeune fils. C'était la malédiction. Voilà Jéricho. Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cela? Parce que voilà où se trouve Bartimée. On va relever 2 leçons. La première, c'est que le meilleur environnement offert par ce monde ne peut rien faire pour la condition de l'homme perdu dans le péché. Ce que ce monde a de meilleur à offrir ne sert à rien. Ici, on a une ville qui est belle, prospère, riche, mais l'homme que nous voyons dans cette ville est aveugle et donc dans l'obligation de mendier pour survivre. Et bien sûr, la leçon, c'est que beaucoup ici recherchent la prospérité, recherchent la sécurité dans ce monde, mais cela ne peut rien faire pour le cancer du péché qui ronge le cœur. Et ça, c'est une chose importante à garder à l'esprit. Ce monde ne peut rien offrir vraiment là où ça fait mal. Et pourtant, combien dans le monde ne font que rechercher cela? Deuxième leçon, dans la nouvelle alliance qui est ratifiée dans le sang de Christ, c'est-à-dire dans l'Évangile, il n'y a pas de lieu qui soit si maudit que la puissance de la grâce ne peut pas atteindre et s'exercer. Jéricho est maudite parmi les cités d'Israël. En fait, c'est la seule ville d'Israël qui est maudite, qui a été maudite, n'est-ce pas? Mais Jésus y passe. Et on voit ici Bartimée, un peu plus loin il y aura Zachée. Vous voyez, personne bien entendu, ne doit prendre le salut pour acquis. Ce n'est pas parce que, bon, franchement, je suis bien, que je vais être sauvé. Non, mais personne n'a besoin de désespérer. Jésus passe par Jéricho. Et c'est important. Donc voilà une chose qu'on sait au sujet de Bartimée, il est de Jéricho. Et même là, nous voyons que Jésus passe par Jéricho. Deuxième chose qu'on connaît au sujet du fils de Timée, c'est précisément son nom, Bartimée. Bartimée. Alors, beaucoup de personnages bibliques n'ont pas de nom. On l'a souligné plusieurs fois déjà. Mais le sien, en fait, c'est un nom qui est simplement dérivé du nom de son père. Bartimée veut dire le fils de Timée, c'est tout. Et il a donc la même nature que son père, la même nature qu'Adam. Voilà, ici nous sommes face à un homme qui naît, qui souffre et qui meurt. Loin de Dieu, comme son père, comme le père de son père, jusqu'à ce qu'on remonte à Adam, le rebelle, qui a préféré sa femme à Dieu. Mais le nom nous indique aussi qu'il est juif. Et c'est un détail important. Ce n'est pas nécessairement simplement une référence ethnique, mais cela signifie que cet homme, cet aveugle, depuis son plus jeune âge, a été exposé aux Écritures et aux promesses de l'Alliance. Ces promesses qui ont été données en Jésus-Christ. Mais depuis qu'il est tout petit, soit dans la synagogue, soit dans sa famille, il a été exposé à ces promesses de l'Écriture, comme personne d'autre dans le monde. Et il est très possible, toutefois, que cette connaissance n'a aucun impact direct sur sa vie. Tout ce en quoi Bartimée est intéressé, tout ce qui occupe son esprit, c'est le matin se trouver au bord de cette voie, de cette route, tellement fréquentée par des gens qui font du business, qu'il va pouvoir avoir récolté suffisamment d'argent pour passer à une autre journée. Voilà. Donc, sa connaissance qui est là ne sert de rien. Mais le bagage est là. Et c'est important, n'est-ce pas? Combien de fois les parents doivent se rappeler la chose? Le bagage est là. Et nous allons voir comme cela est important tout à l'heure. Donc, voilà un homme qui est juif, qui habite Jéricho, l'aveugle qui mendie, ça c'est encore quelque chose qu'on sait au sujet de Bartimée. Cet homme est dans une incapacité totale de faire quoi que ce soit pour s'en sortir. Il n'a pas la vue, et il est donc impossible qu'il subvienne à ses propres besoins autrement qu'en mendiant. Dans nos sociétés, de plus en plus, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui endurent un handicap. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est simplement, on est à la merci de la générosité des autres. Et en cela, Bartimée offre une image exacte de l'homme naturel, qui est aveuglé par le péché, réduit à mendier sa subsistance auprès de divinités illusoires. L'homme naturel, aujourd'hui, l'homme moderne, sophistiqué, il est réduit à calmer des divinités qu'il voit, sont en colère, et il ne les connaît pas. Alors il va offrir toutes sortes de cultes. Encore hier, en écoutant les nouvelles, j'étais frappé par le fait qu'on a ce désir aujourd'hui, ce désir qui touchait tout l'Empire romain à l'époque, que peu importe, la manière dont on va adorer ce Dieu, cette religion qu'on a, toutes les religions se valent, il faut qu'on les accepte, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train de se faire sous nos yeux, et à une vitesse absolument fulgurante, qui était déjà ce qui se passait dans l'Empire romain. Et on sait ce qui va se passer pour les croyants. Exactement la même chose qui se passait à l'époque. Leur problème n'était pas qu'ils avaient un autre Dieu. Le problème des Juifs dans le monde n'était pas qu'ils avaient un autre Dieu. Les chrétiens non plus, c'est que leur Dieu est exclusif. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est rempli d'hommes, de femmes, d'enfants qui cherchent mais pas dans la bonne manière, mais disons qu'il cherche à apaiser la colère de ces divinités qu'on ne sait pas trop qui elles sont et tout ça. Alors, si tel et tel et tel ont des idées différentes, ben, il faut qu'on accepte parce qu'on espère qu'à la fin, tout va bien se passer. Donc, vous voyez, on est dans une situation très moderne, hein, très moderne. Et c'est une image parfaite du désespoir. Si on s'arrête pour regarder la situation du monde aujourd'hui, la situation de l'homme sans Dieu, c'est le désespoir. Et il y en a beaucoup qui le réalisent sans le comprendre. Vous avez déjà entendu cette phrase, « Quel monde on laisse pour nos enfants ?» C'est ça, hein ? C'est ça. Alors bien sûr, nos parents ont dit la même chose à notre sujet. Ce monde dans lequel on vit d'une certaine manière assez acceptable encore, les parents n'arrivaient pas à imaginer comment on allait pouvoir vivre dedans. Et ainsi de suite. Mais c'est le désespoir. Mais cet homme Bartimée, aveugle, est donc dans le désespoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est mendier jusqu'au jour où son esprit va se séparer de son corps. Aucune autre perspective. Mais c'est là sa grande bénédiction. Ah, il y a de quoi être surpris, mais l'Évangile surprend, parce que son véritable état n'est pas caché sous des couvertures fausses. Aujourd'hui, il y a une certaine abondance, certaine affluence encore dans beaucoup de milieux, et le résultat, c'est qu'on ne voit pas la misère qui est la réalité. Mais ici, Bartimée, en quelque sorte, étant aveugle, voit sa misère. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est trop sollicité. Mais lui, il est coupé du monde par son handicap. Et cela lui donne beaucoup de temps pour réfléchir. Oui, il est au bord de la route et il attend de l'argent. Il attend les aumônes. Mais en même temps, il peut réfléchir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Nous ne réfléchissons pas assez. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement sollicité par des tas de choses. L'aveugle, lui, il a le temps et le loisir de réfléchir. Et il le fait. Il le fait. Cela se voit de son cri à l'adresse du Seigneur, et nous allons le voir dans un moment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que Marc compose ces choses. Pour nous, pour chacun d'entre nous, il y a des choses qui nous empoisonnent la vie et on aimerait bien en être débarrassé. Or, cela peut être exactement ce que Dieu veut utiliser pour nous détourner et nous détacher du monde et pour qu'on réfléchisse au salut qu'il accomplit en Christ. Et je me rappelle, c'était intéressant, moi ça m'avait frappé, c'était une jeune femme en Afrique qui me disait « Mais pourquoi est-ce que j'ai le malheur d'être belle ?» Alors bon, les standards, les normes étaient peut-être différents, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi ? Parce qu'elle était ennuyée par des tas de choses. Et oui, en fait, ce que beaucoup de gens voient comme un plus, pour elle, elle est arrivée à voir que c'était un moins. Parce que ça lui causait des tas de problèmes. Et on peut dire des fois, pourquoi est-ce que ces choses qui nous préoccupent, nous mettent à la merci de toutes ces sollicitations, en fait, qu'on considère comme peut-être des plus, ça risque d'être des moins, d'être des handicaps, en quelque sorte. Et ici, le Seigneur n'a pas donné la vue à Bartimée, ou lui a enlevé, on ne sait pas, hein, mais cela lui permet de réfléchir, ce que la plupart du monde ne peut pas faire. Et donc, il réfléchit. Il a entendu tant de fois prêcher à la synagogue au sujet de cet évangile. Quelqu'un vient qui va inaugurer une nouvelle alliance. Alors, si vous avez votre vue, si vous avez, si vous êtes entre guillemets normal, ça fait partie de la vie, mais il y a des tas d'autres choses qui viennent bousculer. Mais pour l'aveugle, on dit souvent que les sens qui restent à quelqu'un qui est privé d'un sens sont beaucoup plus développés. Et c'est exactement la même chose ici. Voilà un homme qui n'est pas sollicité par ses yeux, mais il a du temps pour réfléchir. Et il a entendu parler de celui qui doit venir pour inaugurer une nouvelle alliance. Et on va voir cela. Il est aveugle, mais il attend. Et ça ne nous est pas montré tout de suite. Il est aveugle, mais il entend. Et qu'est-ce qu'il entend? Quel est le bruit de cette foule qui vient? Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Donc maintenant, nous avons vu Bartimée, l'aveugle, fils de Timée. Maintenant, on voudrait voir le fils de David. Le fils de David. Bartimée pose la question. Quel est ce brouhaha? Quel est ce mouvement? Et il est certain que les nouvelles au sujet de ce jeune faiseur de miracles, Jésus n'a pas encore 35 ans, hein, rappelons-nous. C'est sûr que ces nouvelles, ça circule en Israël. Et Bartimée a entendu parler. Et donc, il reçoit une réponse. Et là encore, c'est très intéressant. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est qui passe? Voilà les paroles de Bartimée. Et il a une réponse. C'est Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen. C'est tout ce qu'il reçoit comme réponse. C'est un peu comme si on lui avait dit, c'est la dernière vedette en vogue qui passe. C'est celui dont on parle dans toutes les nouvelles, n'est-ce pas, qui passe. Jésus le Nazaréen. Tout le monde se presse vers lui. Il faut voir tous ces trucs sensationnels qu'il accomplit, franchement. Et c'est, en fait, c'est la curiosité du moment, avant qu'il y en ait une autre qui vienne. N'est-ce pas? Et je me demande si ce n'est pas la perspective que beaucoup ont de Jésus. Dans quelques mois, on va arriver à Pâques, et à tous les coups, il va y avoir certains de nos magazines qui vont faire un gros article sur Jésus le Christ. N'est-ce pas? Mais c'est un peu simplement Jésus le Nazaréen. Parce que en Israël, on disait... Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Et alors, quand il y a quelqu'un un peu spécial qui vient de Nazareth, qui est nazaréen, alors oui, on veut regarder qui c'est celui-là. Est-il celui qui peut simplement nous donner un peu plus de mieux dans la vie? Est-ce que c'est simplement la curiosité du moment? La question peut se poser, parce que ça se posait à l'époque, et c'est vraiment le cas pour beaucoup. Mais ça n'est pas le cas pour Bartimée. Il demande, qui est-ce qui passe? On lui dit, c'est Jésus le Nazaréen. Un homme. Un homme qui fait des trucs sensationnels. C'est un peu la curiosité, comme je dis. Mais pour lui, c'est Jésus, fils de David. Ça n'est pas une curiosité. Parce que ce titre... Si on regarde chaque fois qu'il est utilisé dans les évangiles, c'est clairement un titre messianique. C'est-à-dire, c'est le titre de celui qui doit venir. L'aveugle a entendu parler du fait que le messager de l'Alliance doit venir, celui dont a parlé Malachie, il y a 400 ans. C'est lui dont Ésaïe a parlé, celui qui doit venir et qui doit... donner la liberté. Et c'est celui qui doit ouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'est ce qu'il a entendu là, en synagogue. Probablement chaque année. Et ces choses-là ont été ressassées dans son esprit. Et ici, quand il crie, ce n'est pas seulement pour que ses yeux voient qu'il crie. Il y a plus que cela. Mais c'est la vie de son âme qu'il veut. Regardons en Ésaïe, c'est intéressant, parce que Bartimée l'aveugle a du temps pour penser à ce qu'il entend à la synagogue. Regardez Ésaïe 42, verset 4. Celui qui doit venir, on va commencer au verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, c'est-à-dire celui que j'envoie. » En qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne fera point entendre dans les rues sa voix. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Pour un aveugle, ça c'est important. Il ne découragera point, il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Regardez le verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Et là, la référence au captif en Ésaïe, c'est une référence à l'année du jubilé. Et l'année du jubilé pour le juif n'était pas simplement tous les 50 ans. C'était cette grande espérance messianique. Vous voyez ? Si on va dans le chapitre 49, le chapitre 61, c'est pareil. On a cette grande espérance. Et quand Bartimée crie « Jésus, fils de David », il cherche quelque chose de plus que simplement la vue. Simplement la vue. Et ici, nous avons un grand principe, un principe fondamental du royaume de Dieu. Beaucoup dans les églises l'ignorent et le rejettent pour leur plus grand malheur. Et cette ignorance, c'est derrière des questions comme « Comment est-ce qu'on vient à Christ ? » Que pouvons-vous nous faire pour que l'Église grandisse ? » C'est des questions qu'on se pose, n'est-ce pas ? Et ça, c'est dans notre ignorance. Quel est le principe fondamental ? C'est tout simplement que la vie du salut vient quand l'Esprit de Dieu vient souffler sur la parole de Dieu. Alors, il le fait de multiples manières, on est d'accord. Il le fait d'une manière communautaire, il le fait d'une manière personnelle. Mais c'est la manière dont Dieu touche les cœurs de ses brebis à salut. Il n'y a pas d'autre manière. Bartimée, ici, c'est une belle illustration. Il sait des tas de choses, parce qu'il a eu même le temps d'y réfléchir. Et ces choses-là sont vraies. C'est intéressant de voir comme en Israël, beaucoup de gens étaient très familiers avec le livre d'Ésaïe. Par exemple, Jean-Baptiste, sans arrêt, cite le livre d'Ésaïe. Et ici, c'est clair que pour cet aveugle, Ésaïe, c'est un morceau de choix. Il le sait, mais il est mendiant et aveugle. Donc voilà quelqu'un qui sait, mais qui ne peut pas. Et voilà qu'il entend que Jésus passe, mais il est aveugle. Et alors, l'Esprit souffle sur ce qu'il sait, et le voilà qui se saisit du Seigneur, du Sauveur. Parce que Bartimée, jour après jour, malgré tout ce qu'il savait, tout ce qu'il apprenait, il se contentait d'aller au bord de la route pour mendier. Maintenant, il y a un changement. Est-ce que ça vient de Bartimée ? Non, ça vient dans Bartimée. C'est quoi ? C'est l'Esprit qui souffle. Comment sait-on que c'est l'Esprit ? C'est très simple, Marc nous le dit. La foule est dans le même cas que lui. Tous les gens autour de lui, spirituellement, ne voient pas qui est Jésus. N'est-ce pas ? Mais poussée seulement par la chair, la foule voit Jésus le Nazaréen. C'est une curiosité, un homme qui nous intéresse, qui nous divertit, qui nous occupe, et la foule lui intime de se calmer. C'est intéressant, comme quoi un genre de religion de la chair cherche toujours à faire les choses de manière décente, de manière normale. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un Jésus de convenance. C'est un peu le Jésus assurance vie éternelle. Pour lui, il criait beaucoup plus fort. En effet, c'est Jésus, c'est-à-dire le salut de Dieu, le fils de David. Et il n'y a pas de salut en aucun autre. Voilà ces choses que l'Esprit de Dieu, dans ce clin d'œil, dans ce moment, dans ce petit instant, lui révèle. Et nous le voyons ensuite, cet homme, non pas poussé à la curiosité, mais Marc prend bien soin de nous dire, une fois guéri, il suivit Jésus dans le chemin. Et Marc écrit, bien après la Pentecôte, bien après le début de l'Église chrétienne formalisée, n'est-ce pas ? Et au début, on le sait, que les croyants, ensemble, l'assemblée des croyants était appelée le chemin. Le chemin. Il le suivit dans le chemin. Vous voyez, ça n'est pas que Bartimée, maintenant, il va accompagner celui qui lui a fait du bien jusqu'à Jérusalem. Non, il le suit, il est disciple. Parce que l'Esprit est venu souffler sur la parole qu'il a entendue, et voilà un homme qui est transformé. C'est ainsi que Marc nous montre cette véritable transformation. Dieu a eu pitié de lui, et tout ce que Ésaïe a prédit de l'œuvre du Sauveur s'accomplit en lui et lui appartient maintenant. Donc on a vu le fils de Timée, le fils de David. C'est intéressant comme quoi les plus petites phrases peuvent nous enseigner dans la parole de Dieu. Quelle richesse! Troisièmement, va, ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus lui dit. Or, aujourd'hui, une grande confusion, on la rencontre, même si peut-être dans notre esprit c'est plus clair, mais il est nécessaire de passer un peu de temps là-dessus. Est-ce que Jésus est en train de féliciter la foi que Bartimée, d'une manière ou d'une autre, a mis en exercice? Est-ce que Bartimée s'est rendu auteur d'une œuvre super bonne et qu'on appellerait la foi et que par cela, il a obtenu le salut? En cela, il serait meilleur que le reste de la foule qui n'a pas de foi. Alors, premier sous-point, c'est la grâce qui sauve. Je sais qu'on est familier avec ces choses ici, mais c'est bon de nous les rappeler parce que souvent nous sommes face à des gens, même dans les milieux religieux, qui vont à l'encontre de ces choses. C'est la grâce qui sauve. Nulle part la Bible ne fait du salut quelque chose qui vient par la foi. Absolument pas. Le salut est par grâce. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que le salut vient de la volonté libre de Dieu. Il donne à qui il veut, sans avoir à s'expliquer. Le salut ne vient jamais en réponse à quoi que ce soit qui vient de l'homme. Jamais. Jamais. Et, petite parenthèse, pour nous c'est important. Nous sommes dans un pays qui est encore très influencé par la religion catholique. Et aujourd'hui, ce qui en reste, c'est assez superstitieux. Et on pourrait dire, parce qu'il y a un certain bagage biblique pour certains, plutôt les gens d'un certain âge, il y a un certain bagage biblique. Et la pensée, c'est que, bon, on peut commencer quand même avec un terrain commun. Non. Non. Le salut ne vient pas en réponse de quoi que ce soit qui vient de l'homme. Heureusement. Car en réalité, l'homme ne peut rien apporter. Il est assis au bord de la route, comme Bartimée. Il sait beaucoup de choses, oui, souvent, peut-être de moins en moins quand même. Il a même entendu parler de Jésus le Nazaréen. Mais il ne le cherche pas. Chaque matin, il vient s'asseoir au bord de cette route, fréquenter, dans l'espoir de survivre une journée de plus. Voilà son horizon. Et c'est l'horizon de notre siècle. Pourtant, il sait. En fait, Bartimée sait tout autant que n'importe quel pharisien et expert de la loi en Jérusalem. Mais comme eux, cela n'a aucun impact sur sa vie. Aveugle des yeux, aveugle du cœur. Mort dans le péché, insensible à Dieu. Voilà la situation de l'homme. Mais soudain, l'œuvre mystérieuse se fait. Son cœur reçoit la vie, car Dieu a envoyé son esprit de vie. Et voilà que l'homme, qui tout d'un coup comprend ce que les prophètes ont dit, il le savait, maintenant il comprend. La vie qui lui est donnée le pousse à tendre la main et à se saisir du Sauveur. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire cela. Il se saisit de l'envoyé de Dieu. Celui qui a été promis. Une seconde, il est là, il ne cherche pas. Mais bien qu'il sache, il ne cherche pas. La seconde suivante, personne ne peut l'arrêter. Mais il est toujours aveugle. Et voilà cet homme qui tout d'un coup comprend ce que les prophètes ont dit. La foi est le moyen, le mode opératoire, on pourrait dire, dont la vie nouvelle se sert pour se servir, pour se saisir du Sauveur. Les autres autour, ils voient, mais il n'y a pas de vie qui s'exprime dans la foi. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Voilà le salut. Il ne faut donc pas chercher à avoir la foi. Au contraire, il faut venir à la source, implorer le pardon. Cela vient quand l'Esprit souffle sur la parole de Dieu. Rappelons-le. Rappelons-le. Or, l'Esprit ne peut pas agir sans que la voie soit ouverte. C'est pourquoi Jésus vient de parler à ses disciples en expliquant ce que le Fils de l'homme va faire. Christ monte à Golgotha afin d'ouvrir la porte, afin de déchirer ce voile qui empêche. Et là, l'Esprit peut agir. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Voici, nous montons à Jérusalem. Parce que le salut ne s'opère pas de façon magique. C'est le cœur de l'Alliance. Dieu doit résoudre le dilemme qui lui fait face. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé. C'est ce dont Paul parle dans Romains 3. Dieu veut, Dieu a décidé dans sa souveraineté qu'il y aura un peuple qui sera dans sa présence pour le louer, pour louer la gloire de son Fils. Or, ce peuple fait partie d'une race plongée dans le péché. Donc, il veut qu'il soit dans sa présence, mais ils ne peuvent pas être dans sa présence. Voilà le dilemme. Voilà le dilemme. Et c'est en Christ que Dieu résout ce dilemme, de façon à ce qu'il peut être juste, tout en déclarant juste ce qui n'est pas juste. Il faut que les termes de l'Alliance soit respecté. Et c'est ce que Luc, lui-même, dans le passage parallèle, souligne. Il faut, en fait, que le Fils de l'homme soit mis à mort. Parce que la justice et la sainteté de Dieu exigent cela. Il faut un substitut. Il faut que le sang soit versé. Le salut s'obtient gratuitement, sans rien apporter, mais il n'est pas bon marché. Il n'est pas au rabais. Aujourd'hui, et il est important que nous nous rappelions cela à tout moment, aujourd'hui, si je suis sauvé, c'est parce que Dieu a payé le plus grand prix qu'il pouvait payer. Et c'est pour ça que je peux recevoir le salut gratuitement. C'est pour ça que Dieu touche les cœurs. L'agneau de Dieu monte à Jérusalem où il va être immolé. Et c'est l'agneau de Dieu, ce n'est pas un des agneaux de Dieu. Il peut dire que c'est le sang de l'Alliance répandu pour beaucoup de miséreux. C'est une alliance qui n'est pas celle de la circoncision, comme on a vu, mais c'est une nouvelle alliance. C'est quelque chose de complètement différent. En fait, c'est une nouvelle création. C'est la nouvelle alliance dont le fils de David, le grand roi ultime, garantit la mise en effet. Cette alliance réussit parce que c'est le fils de David qui en ratifie les termes. C'est une alliance nouvelle, celle pour laquelle officie un nouveau souverain sacrificateur. Ça n'est plus quelqu'un qui vient d'Aaron, mais c'est quelqu'un qui n'a ni commencement de vie ni fin de jour, selon l'ordre de Melchisédek, et qui est pour tous ceux qui croient, c'est-à-dire tous ceux en qui Dieu place la vie qui crie vers le Seigneur. C'est exactement ce qu'on voit chez Bartimée. Est-ce que c'est le salut auquel je suis venu ? Et ça, c'est important de nous poser la question, sans arrêt. Non pas dans une introspection morbide, mais de façon à être sûr et à pouvoir se réjouir en Christ. Pour beaucoup de gens, il y a une bonne connaissance de la vérité dans les milieux. Aujourd'hui, on a tellement d'outils dans les mondes, même dans le monde évangélique, qui peut nous enseigner la vérité. Mais cela ne sauve pas. La connaissance ne sauve pas. Elle est indispensable, mais elle ne sauve pas. Voyez les pharisiens, vous sondez les Écritures. Et ces gens-là passaient vraiment du temps dans les Écritures, les vraies Écritures. Voyez la foule. Les pharisiens voyaient la vérité, mais ils refusaient d'aller vers le Sauveur, vers le cœur des Écritures. La foule, regardez, c'est un Nazaréen. L'Esprit de Dieu, dans la grâce immense de Dieu, est-il venu donner la vie pour que vous vous saisissiez du Sauveur à tout prix, c'est-à-dire au prix de laisser les choses chères partir, au risque de tout perdre. Et est-ce que c'est la grâce de Dieu qui me pousse à le suivre maintenant dans le chemin? Rappelons-nous que c'est un chemin qui monte à la croix, un chemin du renoncement. Et c'est aussi la meilleure évangélisation. On veut évangéliser, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde parle d'évangélisation. J'ai du mal à y croire des fois parce que les brochures sur l'évangélisation se vendent mal. Mais bon, ça c'est un à côté. Mais regardez le passage parallèle en Luc 18. Que veux-tu que je fasse, que je te fasse, dit Jésus. Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Verset 43. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Ça, on voit un homme transformé. Et quel est le résultat? Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Est-ce qu'on veut toucher les gens autour de nous? Voyons le Seigneur, le Sauveur, comme le Fils de David. Suivons-le dans le chemin, ayant recouvré une vue qui a un impact sur notre vie. Et là, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Qu'il nous la donne et qu'il glorifie son nom. Amen.